On va prier.
Kadusenge.
Seigneur, merci pour ta présence.
Data, urakoze kubw'ubwiza bwawe.
Que ton nom soit glorifié.
Izina ryawe rihabwe icyubahiro.
Nous avons fait le choix d'être dans cet endroit ce soir.
Twahisemo kuba muri iki kibanza uyu mugoroba.
Parce que tu es ici.
Kukuri hano mana.
Éternel, nous t'aimons.
Mwami turagukunda.
Merci pour ton amour.
Urakoze kubw'urukundo rwawe.
Merci pour le prix que tu as payé.
Urakoze kubw'ikiguzi warishe kubwacu.
Pour nous réconcilier à toi.
Kugira ngo twuzure nawe.
Merci pour Jésus.
Urakoze ko watanze Yesu.
Merci pour le sang versé à la croix.
Urakoze kubw'amaraso yamenetse ku musaraba.
Merci Seigneur pour la réconciliation.
Shimwa ko watwujuje n'Imana.
Nous te sommes reconnaissants.
Turagushimiye
cyane. Tu es si grand Seigneur.
Uri Imana ihambaye.
Éternel, ce soir.
Mwami kuri uyu mugoroba.
Je mets une attente devant de ton trône.
Ndashize kwitega imbere yawe.
Seigneur.
Mwami.
Utilise-moi comme un canal.
Koresha nk'igikoresho.
Pour bénir ta fille. Pour bénir ton fils, pour instruire ton peuple. Je veux te rendre grâce pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Éternel, sans toi, rien n'est possible. Merci de parler à chaque cœur. Merci de parler à chaque vie. Merci d'accomplir ton œuvre, Seigneur. Éternel, merci pour ta parole qui est puissante. Merci pour les délivrances. Merci pour la révélation. Merci pour la restauration. Merci pour l'instruction. Merci pour les directive. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.
Amen.
Ouvrons nos Bibles dans Genèse 1.
Itanguriro igice cya mbere.
Verset 27.
Umurongo wa 27.
La Bible dit Dieu créa l'homme à son image.
Ngo nuko Imana iremye umuntu mu ishusho yayo.
Il le créa à l'image de Dieu.
Mu ishusho y'Imana niho yamuremye.
Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. La Bible n'a pas dit Dieu le bénit, mais Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, s'adressant aux deux, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
muzurisi,
et la sujettissez,
muyiganze,
et dominez sur les poissons de la mer,
mukiaga,
sur les oiseaux du ciel
mukirere,
et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Genèse 2, verset 7.
Genèse
2, verset 7.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
Et
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment est-ce qu'il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte.
Ils
n'en avaient point honte. Alors, premièrement, ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que le mariage est une institution que Dieu a établie. Le mariage ne n'est pas de notre tradition. Le mariage n'est pas la résultante d'une pensée humaine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et vous voyez, même dans le royaume aujourd'hui, ce mariage qui a été institué par Dieu pour être une réelle bénédiction est une source de réelle tragédie. Pourquoi? Je pense parce que nous n'approchons pas le mariage comme Dieu a voulu que nous puissions l'approcher. Vous savez, pour réussir sa vie, il faut faire un effort délibéré, un effort constant de faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Et le mariage qui a été institué par Dieu doit être bâti sur les fondements de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas réussir le mariage sans Dieu. Nous avons besoin des conseils de Dieu pour réussir le mariage. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il créa l'homme et la femme. Et le mot et, c'est une conjonction de coordination. Ça rattache deux éléments. Il créa l'homme et il créa la femme. Avant de bénir, il s'est assuré que l'homme était là, que la femme était là, et il est béni ensemble. Il dit, soyez féconds. Et vous allez vous rendre compte que la parole que Dieu a relâchée ne pouvait pas s'accomplir sans que les deux ne soient ensemble. Il dit, soyez féconds. Quelle que soit la grandeur d'un homme, qu'il parle avec Dieu face à face, qu'il soit l'homme le plus robuste, il ne peut pas avoir un enfant seul. Quelle que soit la femme, quel que soit ce qu'elle est, il est impossible pour une femme d'avoir un enfant seul. Le mot fécond ne peut arriver à manifestation que quand l'homme et la femme se sont mis ensemble. Dieu est assez intelligent. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il a amené l'homme à dépendre de la femme et la femme à dépendre de l'homme pour que s'accomplisse la parole qu'il a reçue. C'est extraordinaire. Maintenant, suivez-moi bien. Ce n'est pas toujours une réussite. Beaucoup de personnes échouent dans le mariage. Je vais vous dire ceci. C'est le point sur lequel vous devez faire le plus attention dans la vie. Parce que le diable tend un énorme piège au niveau du mariage. Je me suis rendu compte, surtout au niveau des femmes, que quelle que soit la spiritualité, quand on parle de mariage, vous vous rendez compte que tout de suite les gens perdent leur repère. On perd les repères. Quand on dit mariage, c'est suffisant pour déstabiliser la sœur qui était très engagée. Alors suivez-moi bien. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu, il a formé l'homme de la poussière du sol. Et il a mis l'homme dans le jardin. Et il a donné l'instruction à l'homme. Suivez-moi bien. Dieu sort l'homme de la poussière. Et il dit lui-même, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu le dit, le concepteur, le créateur, celui qui connaît l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu ne va pas tout de suite créer la femme. Il ne va pas la manifester tout de suite. Pourquoi? Parce que, numéro un, le mariage n'est pas quelque chose qui est fait pour des personnes qui manquent de maturité. Ce
ne
sont pas les personnes immatures qui se marient. Dieu n'a jamais voulu que ce soit les immatures qui entrent dans le mariage. Et la Bible dit, après avoir dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire venir les animaux vers l'homme. Et la Bible dit que Dieu veut voir comment est-ce que l'homme va nommer les animaux. En quelque sorte, c'était le test de sa maturité. Quand l'homme a réussi l'épreuve, en nommant les animaux, en démontrant à Dieu qu'il était un homme mature, à partir de ce moment, Dieu le fait tomber dans le sommeil en disant là, tu peux avoir une femme. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas le sens de leur destinée. Là, ils courent à l'église, ils cherchent des femmes. Alors qu'ils ne savent même pas encore ce que la vie attendra
d'eux.
Vous comprenez? Donc Dieu fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme nommerait les animaux. Et ensuite, quand l'homme a passé le test, il sort la femme de la côte de l'homme. Maintenant, rassurez-vous, mes sœurs. Le fait que tu existes, c'est la preuve.
Écoute
bien. Le fait que tu existes démontre qu'un homme duquel tu as été tiré existe quelque part. Je vous le dis sérieusement. Parce que la science même a démontré que les hommes ont des côtes impaires. Et les femmes ont les côtes paires. Donc chaque femme sort d'une côte. Et chaque homme a une côte qui est sortie de lui. Est-ce que vous me comprenez? Et ça c'est très important. Imaginez dans un instant que la côte de Steve que Dieu a préparée pour Steve Anatole la voix Anatole
Jacques
Yakobo, la voix et il la prend pour femme. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà pensé à ça? Et vous voyez, l'homme va nommer les animaux. Et l'homme va découvrir dans l'exercice de ses responsabilités que quand il a vu le coq, il y a une poule à côté. Il a vu le lion, il y a la lionne. Est-ce que vous me comprenez? Il voit le singe, il voit la guenon. Vous voyez, il y a toujours une femelle à côté. Et il constate que lui seul semble être seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Il semble être seul. Il regarde autour de lui. Il n'y a pas ce qui lui est semblable. Il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque autour de lui. Et c'est pour ça que quand Dieu va placer la femme en face de lui, il va dire enfin. S'il a dit enfin, ça veut dire qu'il a cherché avant. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors suivez-moi bien. C'est normal qu'il y ait souvent on dit, une mésentente dans le couple. Parce que l'homme et la femme, tout, bien qu'étant créés tous par Dieu, n'ont pas été formés de la même manière. Quand Dieu devait former l'homme, il a récupéré la poussière. Et les animaux avaient déjà uriné dessus. Ils avaient marché dessus. C'est sur ça qu'il a pris pour former l'homme. Et vous allez vous rendre compte que l'homme a tendance à être plus sale que la femme. Parce que l'homme sort de la poussière. L'homme sort de la poussière. Il vient de la poussière. L'homme ne peut pas avoir la même attention sur lui-même qu'une femme. Il sort de la poussière. Et mais quand il a dû créer la femme, il a trouvé qu'elle était tellement précieuse. Parce qu'elle devait être aussi pour l'homme une récompense. Il est allé récupérer la côte. La côte est blanche. Elle est pure. Elle est précieuse. Elle sort de l'intérieur de l'homme. Et quand vous êtes étudier la côte dans le fonctionnement du corps est ce qui permet à l'homme de respirer. Ce qui permet d'expirer et d'inspirer. C'est la présence de la côte qui permet à l'homme de récupérer de l'air nécessaire au fonctionnement de son corps et de relâcher le gaz carbonique pour pouvoir se maintenir. La femme joue un rôle de régulateur dans la vie de l'homme. Elle est toute blanche. Elle est toute pure. C'est pour ça que quand la femme est apparue, elle était différente. Quand elle est sortie, Adam l'a regardée. Elle avait une démarche particulière. Elle était toute précieuse. Les cheveux descendaient jusque là. Adam dit waouh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique, quelque chose d'aussi beau, quelque chose d'aussi précieux. C'était la femme de l'homme. Amen. Elle était pure. Elle était douce. Parce qu'elle est tirée de la corde. Toute blanche, toute pure. L'homme et la femme sont différents. Vous voyez? Regardez bien. Le premier homme, il a dû chercher longtemps avant de voir sa femme. Il regardait à gauche, il regardait à droite, il regardait à gauche, il regardait à droite. Et vous allez vous rendre compte que c'est resté dans les hommes. L'homme a tendance à regarder à gauche, à regarder à droite, à regarder à gauche, à regarder à droite.
Il nous a mutangare, mubona abagabo ko babara bahari ibujyo ibubafu, ibujyo Nastasia Supesi.
Vous savez pourquoi? C'est un réflexe qu'Adam a eu. Il a cherché partout en même temps. Avant de trouver sa femme. Vous allez voir un homme. Même le jour de son mariage, il est en train de regarder à gauche. Pourquoi? C'est comme ça qu'il a été. Il a hérité ça d'Adam. Ah, dis à l'homme qui est à côté de toi, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Il y a une femme pour toi. Maîtrise-toi, il y a une femme pour toi. Il faut te calmer, il faut te calmer. Il faut te calmer.
Il faut te calmer.
Et il y a une femme pour toi. Donc vous voyez, ça c'est le réflexe de l'homme. Mais quand la femme a été créée, elle n'a pas eu le temps de chercher. Elle n'a pas cherché. Dès qu'elle est sortie, elle a entendu une phrase. Le poète Adam. Enfin, voici cette hausse de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Quelle que soit la femme du monde, qu'elle soit Margaret Thatcher, qu'elle soit la reine, qu'elle soit la domestique de maison, quand une femme entend une belle parole, elle n'est jamais indifférente. Ce n'est pas sa faute. Ça vient de son aïeul. Et vous voyez, dès que Adam a eu Ève. Le premier réflexe, viens, je vais te montrer des choses. Voilà le lion. Voilà la lionne. Voici ci. Voilà ça. Et aujourd'hui, les femmes ont gardé le même réflexe. Elles aiment le shopping. Parce que ça vient de là. Elles aiment aller se balader pour voir les choses. Et vous savez, si vous ne comprenez pas ces petites différences, parce que l'homme et la femme sont différents, vous allez avoir des problèmes dans le mariage. Parce que la femme est vraiment différente de l'homme. Elle sort de la côte. Et c'est ce qu'Adam n'avait pas compris. Bien qu'elle soit pure, la côte n'était pas droite. Elle était un peu tordue. Ça veut dire que l'homme... Ça veut dire que l'homme devait considérer que bien que la femme soit toute belle, il y a quand même le côté un peu. Bon, je n'ai pas dit que les femmes sont tordues. J'ai simplement dit que la côte était un peu... Et comme la côte est fragile, la femme aussi a une forme de fragile. C'est pourquoi, quel que soit le diplôme d'une femme, à un certain niveau, sa vraie réussite
elle
est en homme. Parce qu'elle a été constituée pour être placée sous l'autorité de quelqu'un. Vous voyez? Et qu'est-ce que la société nous enseigne? Le féminisme!
Oh!
Les hommes et les femmes sont égaux.
Ce
n'est pas mauvais ces choses-là. Mais il faut faire très attention. Très attention. Quelle que soit la position d'une femme, quand elle est dans son mariage, elle doit considérer qu'elle a été créée pour fonctionner sous l'autorité d'un homme. Mais l'autorité, ce n'est pas la domination. D'accord? C'est pour ça que je voudrais parler avec vous de 22 choses que chaque personne doit savoir avant de se marier.
22
choses. Que tout le monde doit savoir avant de se marier.
Moi,
vous n'êtes pas un peu choqué quand vous vous rendez compte que quand Adam a commis la faute, Adam et Ève dans le jardin d'Eden, et Dieu lui a demandé, mais Adam, qu'est-ce qui t'a pris? Il dit non Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as
donnée.
Écoutez-moi très bien, bien que le mariage soit quelque chose de très bon, le mariage constitue pour l'homme une forme de prison. Parce qu'un homme marié est un homme qui a perdu certaines libertés. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, si telle était la condition de l'homme, les disciples ont dit à Jésus, mais si telle était la condition de l'homme, pourquoi est-ce que ça c'est vrai dans un homme de se marier? Et il a dit à ses disciples, beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses. Ça veut dire que lui-même, il mettait en garde en disant, il ne faut pas prendre le mariage comme quelque chose avec lequel on s'amuse. C'est très sérieux. Très sérieux. Je vais parler de 22 choses que chaque personne doit savoir avant de se marier. Numéro 1. Le mariage est sacré. Numéro 2. Les fiançailles sont sacrées. Alors suivez-moi bien. Les fiançailles sont pour le mariage ce que la fondation est pour la maison. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut bâtir une maison? Avant de construire une maison, il faut un plan. Dis après moi plan.
Plan.
Encore plan. Et une dernière fois plan.
Plan.
Il faut un plan.
Hakenewerero plan.
Et la fondation sera construite en fonction du plan de la maison. Vous ne pouvez pas dire, Comme la fondation n'est pas visible, la fondation ne fait pas partie de la maison. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la maison repose sur la fondation. Si la fondation n'est pas bonne, quelle que soit la beauté de la maison, elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi? La fondation.
Fondation
et ce qui porte la maison. Et les fiançailles, c'est ce qui porte le mariage. Donc, les fiançailles sont sacrées. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, Dieu avait fait une promesse à David. Il a dit à David, ta postérité, ça sera sur le trône d'Israël. La promesse était faite à David. Et à la postérité de David. Et quand vous lisez la généalogie, dans Matthieu 1, Joseph était celui qui devait hériter de la promesse qui avait été faite à
David.
Mais Joseph,
ariko Yosef,
était un homme.
Yari umugabo.
La promesse lui avait été faite.
Isezerano yari
en lui disant, Joseph,
nimubwirwa ngo Yosef,
c'est ton enfant
umwana wawe
qui va s'asseoir sur le trône.
Niwazokwicara ku ntebe
y'igana. Mais Joseph était célibataire.
Ariko Yosef ntiyari bwubaka.
Joseph était seul.
Yosef yari wenyene.
Aussi longtemps que Joseph restait seul, cette parole de Dieu ne pouvait pas s'accomplir dans la vie de Joseph. Et donc, Joseph devait trouver une femme.
Suivez-moi
très bien. Et Joseph, a regardé les femmes. En Israël, la tradition voulait qu'une fille se marie étant vierge. Aujourd'hui, cette tradition a disparu. Mais elle reste valable. Parce que Dieu veut qu'une femme aille dans le mariage étant vierge. C'est très important la virginité. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont seules mais qui sont quand même mariées. Parce qu'il y a, elles ont contracté des alliances auxquelles elles n'ont pas renoncé. Elles sont allées avec des hommes. Elles ont laissé le sang sur le bras de celui qui n'était pas leur mari. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Aussi longtemps que ça n'a pas été dénoncé, il y a une empreinte qui reste. Et ça fragilise la solidité de ce qu'on va construire plus tard. Alors Joseph a cherché une femme vierge. Et il a trouvé Marie.
Maria.
Et quand l'ange va parler à Marie, l'ange va dire,
Marie, go Maria,
Marie,
go Maria,
tu es bénie entre toutes les femmes.
Quelle
grâce,
go harubunu,
une grâce,
go wagiri
ubunu, une grâce,
harubunu,
une grâce.
Ubunu.
La grâce veut dire
ubunu busobanura,
une faveur que je ne mérite pas.
Gutoneshwa utabirene.
Ça veut dire que quoi? Si Joseph avait choisi Martine, si Joseph avait choisi Gertrude, la promesse qui était faite à Joseph, la promesse qui était faite à Joseph, allait dans le ventre de Gertrude. Pourquoi? Parce que c'était une grâce. La grâce n'est jamais une faveur qu'on mérite, est une faveur qu'on ne mérite pas. Une faveur imméritée. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à adorer Marie? Comme si Marie avait eu un énorme privilège. Le privilège ne lui était pas échu. Parce que c'était le choix de Joseph, c'est Marie qui a transféré la promesse dans son ventre. Est-ce que vous me comprenez? Mais ils n'étaient pas encore ensemble. La Bible dit qu'ils n'avaient pas encore habité ensemble. Elle est tombée enceinte. Et Joseph a dit, mais c'est pas possible. Cette femme a dû me tromper. Et l'ange, quand il réapparaît à Joseph, il lui dit, prends Marie.
Maria.
Celle qui sera ta femme.
Ati,
celle qui est ta femme aux yeux de Dieu. Prends-la.
Mugore,
pourquoi?
Kuberiki.
Suivez-moi bien. J'ai vu des gens qui se fiancent
15
fois. C'est très dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Mais c'est encore mieux. D'interrompre des
fiançailles
que d'avoir un mariage qui est interrompu. C'est encore mieux. Mais il faut faire attention. Avant de contracter l'alliance du fiançailles,
il faut être
sûr. Il faut être sûr. Il faut être sûr de ne pas s'être trompé. L'ange a dit,
prends
Marie,
Maria,
celle qui sera ta femme,
wa,
va avec elle.
Gujane
car l'enfant qu'elle porte
gumana afisa
ne vient
iwe
pas des hommes,
nava kubana babano,
mère de Dieu.
Ariko ava kumana.
Vous savez,
Mwarimuzi,
les fiançailles,
fiançailles,
c'est l'union des cœurs
ni mitima ibigiye hamwe,
et non du corps.
Atari mibiri ibigiye hamwe.
Quand on est fiancé,
iyo muri aba fiancé,
c'est les cœurs qui sont unis.
Ni mitima ibiri hamwe.
C'est pas le corps.
Si mibiri ibiri hamwe.
Ils n'avaient pas habité ensemble. Ils n'avaient pas eu de rapport sexuel ensemble. Aujourd'hui, notre société ne l'accepte pas.
Oh
non, c'est ton âge. Ah, c'est ton adolescent.
Oh,
il faut que cette crise lui arrive.
Il faut
qu'elle vive cette crise-là. Mais le vrai problème que j'ai,
si
Jésus était comme nous, et à 12 ans, au lieu d'être dans la crise de l'adolescence, il était dans la crise de la conscience.
Dans le temple,
en train de poser la question aux principaux sacrificateurs.
Sur
la parole de Dieu, à 12 ans. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Il avait
12
ans. Vous comprenez ça?
12
ans. Donc, les fiançailles ont un caractère sacré. Jésus est arrivé dans le ventre de Marie quand elle était fiancée. Ça veut dire que, aux yeux de Dieu, les fiançailles ont une grande signification. Numéro
3.
Votre conjoint,
Uomubana,
qui est un don que Dieu vous fait,
arinawe, ningabiri mani biguhaye,
ne sera pas la source de votre bonheur, mais c'est Dieu qui en sera la source.
Siwe soko y'munezero wa, ahubwo ni Imana isoko y'umunezero wa.
Votre conjoint ne sera pas la source de votre bonheur.
Uomubakana, siwe soko y'umunezero wa.
Mais c'est Dieu qui sera la source de votre bonheur.
Ariko Imana niyo soko y'umunezero wa.
Ne pensez pas que si vous n'êtes pas heureux célibataire, vous le serez marié.
Nibaze ngo nimutajyohe ukiri umuselibataire uzojyoherwa ni wubaka.
Parce que normalement, vous devez déjà être heureux seul.
Mais
si seul, vous avez déjà un problème, alors réglez d'abord le problème avant de vous marier. Ne pensez pas que dans le mariage, mon mari va m'aider à régler ce problème. Non, réglez-le d'abord. Parce que je vais vous dire ceci, on ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre heureux. Donc je vais me marier parce que je veux rendre heureux ma femme. Je vais me marier parce que je veux rendre heureux mon homme. Donc je vais dans le mariage pour satisfaire mon conjoint. Apporter le bonheur à mon conjoint. Parce que je l'ai déjà. Je l'ai en moi. Jésus est la source de ton bonheur. Dieu est la source de ton épanouissement. Est-ce que ça va?
Et nous,
est-ce que vous me comprenez? C'est la source de ton bonheur. Ça ne viendra pas de quelqu'un. Ça vient de Dieu.
Hébreux
12, verset 2 dit qu'on devrait avoir les regards fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre
vie.
Donc nos regards sont fixés vers notre maître. C'est lui qui est la source de notre bonheur. C'est d'abord lui. Quatrième point. Et ça c'est très important. Ceux qui ont des qualités qui attirent votre attention. Ceux qui ont des qualités qui attirent votre attention ou votre regard ne sont pas toujours dignes de recevoir votre cœur. Ceux qui ont des qualités qui attirent votre attention ne sont pas toujours dignes de recevoir votre cœur. Vous voyez, nous regardons à l'apparence. Oh, le gars, il s'habille bien. Oh, cette fille s'habille bien. Même si elle attire ton regard, même s'il attire ton regard, souviens-toi toujours que toutes les personnes qui attirent ton attention ne sont pas dignes de recevoir ton cœur. Donc tu ne donnes pas ton cœur à la première personne venue. Est-ce que ça va? Tu ne donnes pas ton cœur à la première personne qui se présente à toi. Tu as une destinée. Tu as un plan pour ta vie. Tu as un but qui veut accomplir. Et le diable sait que s'il réussit à te donner le mauvais partenaire, il va sérieusement gripper ta machine. Il va handicaper sérieusement l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Alors, fais attention. On ne choisit pas une femme ou un homme comme on a choisi sa voiture ou bien sa chemise. Ce n'est pas la même chose. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Tout ce qui attire ton attention. Non, ne sont pas dignes de recevoir ton cœur. Fais attention. Fais très attention. Cinquième point. Vous voyez, tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais dans d'autres pays aujourd'hui, les femmes sont devenues extrêmement matérialistes. Extrêmement matérialistes. Et un dicton qui dit, si les singes possédaient l'argent, alors les femmes épouseraient des singes. C'est un dicton qui a dit, c'est pas moi. Vous voyez, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Quelqu'un peut avoir une très faible apparence. Et cette faible apparence peut cacher de grandes choses dans le futur. Donc, dans le mariage, je ne me limite pas à ce que je vois. Je dois être en même de collaborer avec Dieu. Et écouter de Dieu dans le choix que je vais faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'écoutent plus Dieu quand ils doivent se décider. Vous devez écouter Dieu. Vous devez collaborer avec Dieu. Parce que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. Il y a des gens dans l'église, des merveilleuses sœurs qui lèvent la main, qui pleurent à l'adoration, des merveilleux frères qui sont très engagés. Mais je vais vous dire, si on mettait sur un tableau ce qu'il faisait quand vous n'étiez pas, nous ne sommes pas là, vous allez avoir peur. Faites attention. Faites très attention. Tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qui existe. Numéro 6. On ne se marie pas donc parce qu'on a vu, on se marie parce qu'on a perçu. Je ne me marie pas parce que j'ai vu, je me marie parce que j'ai perçu. Adam n'a pas simplement vu sa femme. Il est allé au-delà de ce qu'il voyait. Il a dit, voici celle qui est os de mes os. Alors qu'il n'avait pas de scanner. Il n'avait pas de scanner. Il a dit os de mes os. Ça veut dire qu'il a vu au-delà de ce qui était apparent. Il a vu au-delà de ce qui était présent. Os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc on va au-delà de ce qu'on voit. On va au-delà de ce qu'on voit. Et j'aimerais vous dire en septième point, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre, c'est d'épouser un inconverti. Donc, en septième point, Dieu a limité le choix de ses enfants. Vous ne pouvez pas choisir n'importe qui. 2 Corinthiens 6 verset 4 nous dit de ne pas placer notre vie sous un joug étranger. Le jour où vous allez vous marier, Dieu vous accompagne à la cérémonie de mariage. Alors assurez-vous qu'en face de vous, vous n'avez pas pour beau-père le diable. Parce que chacun est accompagné par son Dieu au mariage. Qui va tenir la main de ton conjoint pour l'accompagner? Dieu ou le diable? Et là c'est sérieux. Parce que je fais face à ça presque tout le temps.
Pasteur.
Oh, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Je l'ai vu, pasteur. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, j'ai eu une révélation. Dieu m'a dit que c'est mon mari. Parce que je ne sais pas ce qui arrive. Quand une femme commence à passer le cap de 25 ans, c'est comme si la cloche de mariage commence à sonner. Et donc on a tendance tout de suite à chercher tout ce qui apparaît. J'ai même vu dans les églises. Quand on dit que les nouveaux se lèvent, quels sont ceux qui viennent à l'église pour la première fois? Et quand frère se lève et qu'il est bien habillé, il revient la deuxième fois. Vous voyez comment est-ce que les sœurs commencent à tisser une amitié avec lui. C'est comme si on est à la chasse de celui qu'on peut avoir pour mari. Faites attention. Vous devez faire confiance à Dieu dans ce domaine. Il a un homme pour toi. Il a une femme pour toi. Dieu est assez fidèle pour l'apporter. Il faut lui faire confiance. Est-ce que vous me comprenez? Donc j'ai vu des sœurs me dire, et quand je pose la question, je dis, est-ce qu'il est converti? Pasteur, c'est un homme gentil. Il est gentil. C'est un homme bien. D'ailleurs, il prie à l'église catholique. Il va de temps en temps à l'église. Je n'ai pas demandé s'il allait à l'église. Il peut même venir dans une église charismatique. Mais j'ai demandé, est-ce qu'il est converti? Écoutez-moi bien. Si vous mettez les habits sur un singe et que vous l'amenez dans un dîner, le singe ne devient pas un homme parce qu'il a porté des habits. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est entré à l'église. On devient enfant de Dieu parce que le cœur a été transformé. Parce que le cœur a été changé. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a aucun inconverti qui mérite ton cœur. Aucun inconverti. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si ça existe. Une seule sœur qui a épousé un homme inconverti et qui a été heureuse. Je n'en ai pas vu. Dieu ne se trompe jamais. Je prie pour Satan aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. C'est lamentable. C'est lamentable. Et un jour, une sœur est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, mon mari n'est pas entré. Il a dormi dehors. Il a des maîtresses. Il fait ci, il fait ça. Elle était chrétienne quand elle s'est mariée. Et elle a pris un païen. Alors je lui ai demandé. Quand tu vas sous le manguier, quel fruit tu trouves? Elle m'a dit la mangue. Et si tu vas sous le figuier, qu'est-ce que tu trouves? Elle m'a dit la figue. Quand tu vas sous le papaye, qu'est-ce que tu trouves? Elle me dit, mais pasteur, la papaye. Je dis, quand tu vas sur l'arbre du péché, quand tu vas sur l'arbre qui est le pécheur, l'arbre s'appelle le pécheur. Qu'est-ce que tu trouves comme fruit? C'est le péché. Si un jour tu trouvais l'avocat sur le manguier, est-ce que tu mangeras de ce fruit? Tu ne mangeras pas, tu ne peux pas manger l'avocat qui est venu. Tu viens sur le manguier, tu trouves un avocat. Je prends autorité. Esprit méchant, je te lis. Parce que tu vas te dire, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Comment est-ce que tu peux voir l'arbre qui s'appelle le pécheur et puis tu veux venir cueillir le fruit de la justice? Ce n'est pas possible. Si tu as choisi l'arbre, appelez le pécheur. Ça veut dire que le fruit que tu veux manger, c'est le péché. Il ne faut jamais l'oublier. Elle a été choquée.
Yarababaye uwo munsi.
Parce que vous voyez, les gens aiment qu'on leur dise.
Abantu bakunda ko umuntu ababwira.
Fais une offrande de $500.
Ngo tanga amadorari
amajana. Je vais prier pour toi.
Ndagusengera ubunyene.
Il va se convertir.
Hanyuma acakizwa.
Souvent j'ai vu des sœurs.
Narabonye bashiki bacu.
Elles viennent te voir.
Baza kukuraba.
Elles veulent corrompre le choix de le point de vue du pasteur.
Bakagomba ko pasteur ahindura ingene
abone ibintu. Et viennent avec une offrande.
Pasteur
Dieu m'a dit
que
si tu pries pour cet homme-là, il va se convertir et puis il va m'épouser. Pourquoi est-ce que tu veux aider Dieu dans ce qu'il veut te donner? Si Dieu t'aime tant, pourquoi est-ce qu'il va te donner de faire le travail de conversion de ton propre mari? Laisse Dieu le faire. Occupe-toi des affaires de Dieu. Et Dieu va s'occuper de cette affaire. Quel que soit l'endroit où ton mari se trouve, Dieu le fera venir. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas la tienne. J'ai béni des mariages où les femmes avaient 53 ans,
48
ans. Elles se sont mariées avec la robe blanche. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est vraiment impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et suivez-moi bien. Je n'ai pas planifié le dire. Faites attention. Ne biaisez pas votre attitude de femme par l'éducation. Que l'éducation ne vienne pas vous déformer. Une femme est une femme. Ce qu'on attend d'une femme, ce n'est pas l'agressivité. Ce n'est pas la compétitivité. Les statistiques nous démontrent que plus les femmes grandissent dans le palier de l'éducation, moins elles trouvent un mari. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le réflexe qu'elle développe, c'est le réflexe de la compétition. Elle perd la douceur qu'elle est supposée avoir. Et je dis toujours ceci, même dans un couple d'homosexuels, il y a un qui va jouer le rôle de la femme. Il y a toujours un qui sera un peu une femme. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne peut pas marcher quand il y a deux hommes. Il faut qu'il y ait une qui soit la femme. Femme veut dire douceur, la tendresse. Il y a des manières qui sont des femmes. Il y a des choses qui appartiennent à la femme. Il y a des femmes qui sont tellement brutales. Elles sont comme des hommes, brutales dans la réflexion, brutales dans le caractère. La douceur, c'est ce qui fait la force. La douceur. Tu ne peux jamais perdre ta douceur. La force de la femme, c'est dans la douceur. Quand ton homme ne le voit pas, il a peur. Parce qu'il y aura deux hommes dans la maison. Je dis que même chez les PD, les homosexuels, il y a quelqu'un qui doit être la femme. Vous trouvez un homme quelque part? Oui, chérie. Alors je me demande comment est-ce qu'il est possible qu'un homme, comment tu te dis, chérie? Oh my God. Et vous savez, et notre société nous dit, non, c'est normal. Il faut accepter ça. Il faut tolérer les autres. Mais c'est le péché. C'est une abomination. Et on doit l'appeler par son nom. C'est une anormalité. Un homme qui commence à agir comme une femme est un homme possédé. On doit imposer les mains pour chasser ce démon. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas de chose. On va aimer le. On peut l'aimer. Mais attention. Quelqu'un qui est malade ne dira pas je suis en bonne santé. Celui qui est malade ne dira pas je suis en bonne santé. Un homme qui se comporte comme une femme est un homme malade. Qui a besoin de guérison. Oh non. Les femmes, vous savez, les hommes sont trop brutaux. Alors j'ai choisi de prendre une autre femme. Parce qu'entre nous, vous savez, les hommes, les gens étaient trop blessés par les hommes. Et quand la femme et la femme vont ensemble, comme homosexuels aussi, comme lesbiennes, Il y a quand même une femme qui doit jouer le rôle de l'homme. Comment tu vas, ma princesse?
Oh.
Comment tu vas, ma princesse?
Oh.
Et c'est une femme qui parle. Est-ce que vous trouvez que c'est stupide? Il y a des hommes. Si tu avais vraiment besoin d'un homme, il faut chercher un homme, pas une femme qui joue l'acteur. Est-ce que vous me comprenez? Et ce sont des choses qui sont dans la société. Je ne sais pas s'il en existe au Burundi, mais il en existe maintenant presque partout. Il se balade dans la rue, il réclame les droits. Oh oui, les droits des homosexuels, nos droits, il faut nos droits, il faut qu'on nous reconnaisse. Et comme il y a beaucoup qui sont infiltrés jusqu'au seuil des décisions, on vote des lois, on dit c'est correct. C'est grave. C'est une catastrophe. Donc, point numéro 8. Si quelqu'un vous dit un jour, jeune fille, je vous aime, ne vous arrêtez pas à ce qu'il vous dit. Celui qui vous aime doit vous le prouver. Si quelqu'un prétend t'aimer, il doit te le démontrer. Il doit te le démontrer. Il doit te prouver. Il doit te prouver qu'il t'aime. Et vous voyez, prenez donc le temps. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps. Prenez vraiment le temps. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a donné un cadeau qu'il t'aime. Parce que les hommes connaissent les faiblesses des femmes. Quand un homme rencontre une femme pour la première fois, il présente toutes les meilleures parties de son être. Quand ils vont ensemble quelque part, oh non chérie, attends, je vais t'ouvrir la porte. Il est galant. Il envoie des fleurs. Il fait ci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait tout ça dans l'intention d'avoir ton corps. Quand l'homme et la femme se rencontrent, la femme cherche le cœur de l'homme. Mais l'homme, qui n'est pas renouvelé, il cherche le corps. Dès qu'il a eu ton corps, il retire son cœur. Il continue sa route. Est-ce que vous êtes avec vous? Il continue sa route. Oh, et la femme est blessée. Il m'avait pourtant dit qu'il m'aimait. Elle commence à pleurer. Oh, je suis dessus. Non. Attention. Ne vous arrêtez pas aux simples déclarations. Il faut checker. Il faut éprouver. Il faut attendre. Prenez le temps. La meilleure façon de tester un homme qui vous dit je vous aime. Prenez le temps. Si ça vient de Dieu, il va attendre. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps. Ne paniquez pas devant la première personne qui vient. Vous avez trop de valeur. Et je vais vous dire, le respect que l'homme vous accordera par la suite dans le mariage est vraiment fonction de comment est-ce que vous avez été dans les fiançailles. Vous savez parce que vous voyez souvent, même quand un homme se rend compte qu'une femme a l'air très facile, il ne fait pas confiance. Et je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Vous les femmes, je vous parle vraiment comme mes soeurs. N'oubliez pas ceci. Faites attention au développement du monde. Vous voulez qu'un homme vous épouse? Faites attention à comment vous vous traitez vous-même. Les hommes vous diront, il y a des femmes qu'on ne met pas à la maison. Si tu t'habilles, et que tout ce, ta manière de t'habiller, c'est sexy, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous savez que quand on s'habille
sexy,
on attire l'attention de l'homme vers son sexe?
Ah,
En fait, c'est le but de ces habits, attirer l'attention de l'homme vers mon sexe. Et après, on est déçu. Oh oui, on a eu des rapports, il a fui. Mais bien sûr, tu as attiré vers ton sexe. Tu as plus de valeur que. Vraiment, ta valeur est énorme. Et je suis choqué par les publicités qu'on a aujourd'hui. Les femmes sont toujours nues, toujours exposées. Et les femmes prennent plaisir aujourd'hui à porter des amis qui sortent tout droit de l'enfer. Comment est-ce que tu peux t'habiller et toutes les parties les plus précieuses que tu as sont exposées par tes amis et tu attends que quelqu'un te demande en mariage? Aucun homme ne veut prendre une femme qui a déjà montré à tous les autres hommes ce que lui veut avoir pour lui seul. Il
ne
veut pas la prendre. Il faut faire attention. Notre manière de nous présenter. Nous devons garder les valeurs. Les valeurs de notre aïeul Sarah. Nous devons garder de grandes valeurs. Donc, si la personne vous aime, prenez le temps. Et pendant le temps que vous êtes ensemble, vous devez avoir le temps de parler ensemble. Vous devez parler ensemble, discuter sur la question de votre foi. Introduisez la question de la Bible. Parlez ensemble. Vous allez vous rendre compte que celui qui n'est pas intéressé par les affaires de Dieu n'aime pas parler des affaires de la foi. Prenez le temps de discuter ensemble des affaires de la Bible. Discutez ensemble de votre futur. Commencez à discuter sur la notion de belle famille. Parlez du futur quand vous êtes ensemble. Ça vous permet de savoir si vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Il y a des femmes qui vont te dire, dès qu'on va se marier, tu prends ma mère, tu prends mes oncles, tu prends mes 14 neveux. Alors si tu es prêt pour ça, tu continues. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous allez discuter. Mais on parle de ça avant le mariage. On prend le temps de parler de ça avant. On discute ensemble. On discute ensemble. On prend le temps de discuter. Parlez de la gestion de l'argent. Parlez ensemble avant de vous marier. Aujourd'hui, je vois des gens mariés. La femme ne sait pas combien il touche. On dit non. Notre tradition a dit,
il ne
faut jamais dire à une femme combien tu touches. Parce que tu dis à une femme combien tu touches, c'est un homme mort. C'est bien le contraire. Quand la femme ne sait pas combien tu touches, elle n'a pas de limite dans ce qu'elle te demande. Donc autant mieux lui dire ce que tu touches. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'une femme qui aime un homme est vraiment là pour l'aider. Souvent on a cru, oui, les femmes sont ultra matérialistes, mais c'est pas vrai. C'est pas si vrai que ça. C'est vrai que la femme va aimer l'attention, elle va aimer les cadeaux, elle va aimer l'amour. Mais je vais vous dire ceci. Vous pouvez offrir à une femme toute une maison, une voiture. Mais ce n'est pas ce que la femme attend d'un homme. La femme attend d'un homme que cet homme lui donne son cœur. Elle n'a pas besoin de l'argent de l'homme. C'est le cœur. Et vous allez voir l'homme dire non. Parce que moi je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas. Je fais tout pour cette femme. J'ai payé une maison. J'ai donné une voiture. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Et elle dit que je ne l'aime pas. Mais la femme, c'est parce qu'elle attend. Elle attend ton cœur. Elle veut que tu l'appelles. Elle veut que tu causes avec elle. Et vous voyez des hommes qui rentrent à la maison le soir. Ils prennent la femme comme un objet. Il la traite comme un objet. Il veut qu'elle soit prête tout de suite. Et dès qu'il a terminé, il tourne le dos. Il regarde sa télé. Et quand la femme veut causer, il dit, je suis occupé. Vous savez, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Ce sont des choses auxquelles on doit parler. On doit vraiment parler. Et dans l'un des points, je vais revenir là-dessus. On doit vraiment parler de ça. Il faut prendre le temps de discuter. La femme a besoin de ton cœur. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'amour. Vous savez, quand tu, même si tu n'as pas d'argent et que tu arrives au Burundi comme moi, tu arrives à l'aéroport, tu ramasses une belle pierre et puis tu le mets dans un petit bocal et tu rentres avec. Quand tu arrives, ta femme vient t'attendre à l'aéroport. Tu dis, chérie, voici ce que je t'ai gardé. Je voulais que tu vois la pierre du Burundi. Quand j'ai regardé cette pierre au Burundi, j'ai pensé à toi. Je me suis dit qu'il faut que tu saches comment sont les pierres du Burundi. Et la femme est touchée parce qu'elle veut voir l'attention. Elle veut savoir que tu penses à elle même quand elle n'est pas là. Ce n'est pas le cadeau qui compte. C'est d'abord le cœur. Alors le cadeau n'est que l'expression de ton amour. Les femmes, est-ce que j'ai tort? N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'attention, c'est le cœur.
Amen.
Donc, vous devez prendre le temps de parler. Mais discutez aussi de l'avenir. Combien d'enfants on veut avoir? Parlez-en avant. Et chaque fois qu'un homme arrive vers une femme, la première question que la femme va lui poser, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si cet homme ne fait rien, demandez à cet homme de continuer. Parce qu'un homme qui ne fait rien n'est pas digne de t'avoir. Le premier homme s'est marié quand il faisait quelque chose. Le mariage,
ce
n'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pour les hommes accomplis. Une femme encore peut se marier très jeune. Mais un homme a besoin d'être un homme. Pas un gamin, mais un homme. Capable de prendre soin d'une femme. Parce que la femme doit être choyée. Mais un gamin de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il y a même des messieurs de 30 ans qui sont encore des enfants. Il faut demander à cette personne de mûrir d'abord avant de penser à se marier. Discutez ensemble. Discutez ensemble. Et faites attention à la doctrine que la personne a reçue dans son église concernant le sexe. Il faut en parler. Il y a une doctrine qui fait ravage dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale. En Liban, le premier péché est venu par le sexe. Donc attention les hommes, le sexe, on le fait uniquement quand on a besoin de faire des enfants. Et faites attention, la main qui touche la Bible ne doit pas toucher n'importe quelle partie du corps de la femme. Parce que cette main est sacrée. Et par conséquent, dans les mariages, même dans les mariages de l'église, dans le royaume de Dieu, on a beaucoup de femmes qui ne sont pas comblées sexuellement. Et vous pouvez le voir sur le visage d'une femme. Elle se lève le matin. Parce qu'elle est insatisfaite, elle ne va pas te le dire. Et puis elle prend un verre. Elle le touche, pof, ça se casse. Tu parles, elle est nerveuse. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle est nerveuse. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Souvent, les hommes sont très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Et c'est pour ça qu'il est important
d'un
bon encadrement avant d'entrer dans le mariage. Parce que le sexe est important dans le mariage. Il est même très important. Il est hyper important. Alors, autant apprendre à bien le faire. Dans le sens de satisfaire sa partenaire. C'est très important. Dans tous les cas, nous refusons d'en parler souvent dans nos églises. Mais les gens en parlent sur Internet. Et quand ils enseignent sur Internet, ils enseignent mal. Alors que c'est Dieu qui l'a créé. Nous sommes mieux placés pour parler de sexe que les sexologues pervertis qui ne connaissent même pas Dieu. C'est nous qui devons en parler. Si on
n'en
parle pas, les gens vont l'apprendre ailleurs. Et ils vont mal l'apprendre. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se cultiver là-dessus. Satisfaire sa femme. L'instinct de l'homme est satisfait facilement. Mais celui de la femme demande vraiment encore un peu plus. Vous savez, parce que quand vous venez vers une femme, ne sautez pas sur elle tout
suite.
Non. Prenez le temps. Si vous voulez avoir les rapports avec elle le soir,
commencez
le matin. Appelez-la au téléphone.
Oh
ma chérie, comment tu vas? Ma princesse.
Ati princesse,
la punaise de mon regard.
Ati
comment tu vas?
Wena
ça va chérie?
Wena
et tout, vous la Lissawa. Préparez psychologiquement. Vous la préparez psychologiquement. Combien de fois
Nikangahe.
Nos sœurs de l'église ont été déstabilisées quand elles ont rencontré des inconvertis dans la route qui ont simplement su leur faire des compliments, tu es bien habillé. Ah, il m'a dit, je suis bien habillé. Je suis bien habillé. Mais vous savez, un compliment, un seul, elle rentre dans la maison. Elle appelle son ami. Mais tu sais quoi? Le frère Bertin m'a appelé. Il m'a dit que j'étais bien habillé. Il a juste dit que tu étais bien habillé. Mais pour la femme, ça va au-delà de la parole. Ça rend au ministère à son âme. Qu'elle soit appréciée. Qu'elle soit valorisée. Au départ, une femme vient. Elle est toute belle. Toute mignonne. Elle est à l'église. Toute fine. Toute bien. Et puis le frère la repère. Et il se marie. Un an après, quand le frère arrive, le frère arrive du travail. La sœur, elle a attaché le pain. Elle a de l'huile de la cuisine qui est en train de couler sur la bille. Parce qu'elle s'est dit, bon, on est mariés pour la vie dans tous les cas. Je me suis battu, je l'ai déjà eu, il est à moi. Je n'ai plus d'efforts à faire. Et quand il rentre à la maison, il trouve sa femme avec de l'huile. Il repart le travail au matin, il trouve sa secrétaire avec le parfum. Il revient le soir à la maison, il trouve sa femme avec de l'huile. Il repart au boulot, il trouve sa secrétaire avec le tailleur. Il repart à la maison, il trouve sa femme avec des habits déchirés. Et n'oubliez pas que ce que l'homme voit peut avoir un impact, un très grand impact dans ce qu'il finit par penser. Ou alors, vous trouvez un homme. Il est chez lui le soir. Il rentre du boulot. Il était tout sapé. Sa femme était aussi au boulot. Mais quand il arrive du boulot, il met une petite culotte. Il y a un trou ici derrière. Il prend un vieux t-shirt. Hein? Déchiré, délavé. Délavé. Et il est dans la maison. Il se balade. Et souvent son ventre arrive là-bas avant lui. Il est là. Non, c'est pas grave, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est pas grave. Et puis quand on sonne au portail, Elisabeth, Elisabeth, apporte-moi un autre pantalon, apporte-moi un pantalon. Et il se change. Comment est-ce que tu veux t'habiller simplement quand les gens te rendent visite à la maison? Et ta propre femme que tu es supposée séduire continuellement. Tu restes délabré devant elle. Et tu es étonné qu'elle n'a plus de respect pour toi. Elle n'a plus de respect pour toi. Maintenant, quand tu dis chérie, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, l'homme a été démystifié. Il
n'y
a plus de mystère, on l'a démystifié totalement. La femme le regarde comme ça, on dit, regarde celui-là. Pourquoi? Faites attention. Il faut entretenir. Entretenir. De façon continuelle. Dans le mariage. la séduction continue. Le fait de se plaire mutuellement. On doit travailler là-dessus. De façon permanente.
Permanente.
Ce n'est jamais toujours acquis.
Voulez-vous
je vous parle de quelque chose dont je n'ai pas prévu vous dire?
Regardez
la société d'aujourd'hui.
L'homme
et la femme, les deux travaillent.
Umugabo bose barakora.
Le matin.
5h.
Oro Shandaraba. Rombo Shandaraba. Il bénit ce Seigneur. Il prie. 6h30. Tchoum. Chacun prend sa voiture. Boum. Au travail.
À 12h.
Il y a une pause. L'homme est au boulot. Il mange dans le resto d'un côté, la femme mange dans le resto de l'autre côté. Quand l'homme sortait le matin, costa cravate. La femme était en tailleur. Elle était bien vernie, bien parfumée, bien coiffée. Le soir, ils reviennent tous vers 19h après avoir affronté toutes les embouteillages. 19h, ils sont à la maison.
L'homme
est là, il est fatigué par. Il a même encore des dossiers entre
ses mains.
Il arrive à la maison. Il est fatigué. La femme arrive, elle est laminée. Le rouge à lèvres a disparu. Les traits sont délabrés. Et finalement, ce couple-là, ils passent 2 heures de temps ensemble quand ils sont tous deux fatigués. Et ils vont au lit. Ils dorment. Le lendemain matin, chacun va de côté. Ils sont mariés. Mais chacun passe plus de temps avec ses collègues
qu'avec
son mari.
Et
à la fin, on est étonné que la femme
ait
une relation dans son bureau et le mari une relation dans son
bureau.
Pourquoi? Parce que les deux n'ont pas le temps d'être ensemble. Réfléchissez. Il faut réfléchir. Vraiment réfléchir. C'est pour ça que quand je me suis marié, ma femme elle a fait de grandes études. Nous avons parlé ensemble. Et nous nous sommes dit, j'ai dit pour moi, j'aimerais bien que ma femme travaille avec moi. Nous sommes tombés d'accord. Et on travaille ensemble. Ça veut dire que le jour où elle se lève, et qu'elle n'a pas envie d'aller au boulot, et qu'il y a quelque chose à faire à la maison, elle reste le faire. Écoutez-moi très bien. Parce que le premier boulot d'une femme, c'est être la femme de son mari. Une aide qui lui soit semblable. Et l'homme doit prendre soin de sa maison.
Mais
vous savez le développement aujourd'hui, les factures élevées, les loyers élevés, chacun doit chercher un emploi
pour apporter à la maison. Tu
es à la maison le soir,
23h,
la femme décroche.
Allô?
Allô? Ah oui, patron.
Ego patron.
Oh, oui, oui. Elle raccroche. Il dit, qui t'appelle? T'as pas entendu, c'est mon patron qui m'appelle. Et le patron demande de préparer un dossier. La femme n'a plus de temps. Elle est prise dans son travail. Et si elle ne fait pas, elle ne sera pas bien rémunérée. Elle
n'aura
pas de promotion.
Donc
on passe tout le temps maintenant à chercher à
des grades.
La famille se détruit. Bien que le mariage soit de Dieu, si on ne travaille pas pour l'entretenir, le mariage ne pourra pas subsister. Je vais vous donner 10 points ce soir et on va s'arrêter.
9e
point, j'ai dit éprouvez votre futur conjoint. Parce que parmi les chrétiens, plusieurs font semblant. Est-ce que votre partenaire vous consulte avant de prendre des décisions? Et il faut éprouver votre futur conjoint. S'il ne te consulte pas pendant les fiançailles, ce n'est pas sûr que pendant le mariage, il va te consulter. Donc prenez le temps d'éprouver votre partenaire. 10e et dernier point pour ce soir. Observez ce qui attire ou retient son attention. Ce n'est pas difficile de savoir ce qui attire l'attention de quelqu'un. Vous passez avec la personne quelque part.
Ukachana no munahantu.
Et vous attendez du reggae.
Ukumva reggae.
Ding 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 ding. Et puis commence à bouger la tête comme ça.
Ukabona ko atangura kugira gutse.
Notez.
Byandika hantu.
Le reggae attire son attention.
Utirega arayikunda.
Regardez bien ce qui attire son attention. Quelles sont les choses qui le fascinent?
Urabi byakunda ibyimujyohera.
C'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ibi bakagamutima
n'ibyo akavuga. De quoi il est rempli?
Avuga iki yuzuye iki?
Plus vous passez le temps avec quelqu'un, mieux vous le connaissez par ce qui sort de lui. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qui attire son attention? Si vous êtes en train de surfer ensemble et que vous tombez sur une page pornographique, voyez un peu comment est-ce qu'il réagit quand il est devant ça. Et peut-être il s'arrête, il regarde, qu'est-ce qui attire son attention? Vous devez être de savoir ce qui attire son attention. Parce que ce qui attire notre attention est simplement le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc faites un effort de voir ce qui attire l'attention. Si vous le faites avec sérieux, vous allez bâtir un mariage solide. Je ne peux pas aller plus loin que ça. J'en ai 22. Mais je vous donne 10 pour ce soir. Parce qu'on doit être ici demain matin. Est-ce que cet enseignement t'a fait quelque chose? Est-ce que cet enseignement t'a fait du bien? Alors on va prier. On va prier. S'il y a quelqu'un ce soir qui me dit, j'ai vraiment besoin, Seigneur, d'être guidé par toi pour mon conjoint. J'ai vraiment besoin d'être guidé et conduit par toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Seules les personnes qui ne sont pas mariées qui disent, j'ai vraiment besoin d'être guidé par le Seigneur. Je ne veux pas me tromper. C'est la première catégorie des personnes pour lesquelles je vais prier. Lève-toi, je vais prier pour toi. Lève ta main vers le ciel. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin. J'ai vraiment besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin d'être conduit. Vous tous qui êtes levés, vous n'êtes pas mariés. Alors lève ta main vers le ciel. Dieu a vraiment un conjoint pour toi. Alors répète après moi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entièrement entre ta main. Je veux te faire confiance dans le domaine du mariage. Je crois que tu es un partenaire pour moi. Je n'ai pas envie de me tromper, Seigneur. Je veux opérer dans ta volonté parfaite. Seigneur, je sais. Je sais que tu vas me bénir. Je sais parce que cela fait partie de ton plan pour moi. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Éternel, je recommande mon frère et ma soeur entre ta main. Je veux te rendre grâce pour ton œuvre extraordinaire dans chacune de ces vies. Que ta puissance, que ton esprit agisse dans sa vie. Éternel, j'ordonne que ton plan parfait en ce qui le concerne s'accomplisse avec puissance, afin que ton nom soit glorifié en lui et que ton nom soit glorifié au travers de lui. Je commande et j'ordonne que s'accomplisse dans sa vie les desseins que tu as accomplis pour lui. Car c'est ton ouvrage que tu as façonné à l'avance pour les bonnes œuvres afin qu'il la pratique ou le pratique. Ce miracle est possible. Ça vient de toi, Seigneur. J'appelle la manifestation de cette œuvre, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci de l'accomplir. Amen. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui sont mariées et qui disent, Seigneur, vraiment, j'ai besoin. Ah, que le Seigneur visite moi, mon couple, et que nous puissions continuer d'être heureux, d'être épanouis. Maintenant, les mariés vont se lever un peu, je vais prier pour eux. Alors, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Tu es marié, tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Ne partez pas, s'il vous plaît. Attendez la fin de la prière. Ne partez surtout pas. Ne soyez pas indisciplinés. La réunion n'est pas finie. Répète après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Je crois que tu as un plan pour mon mariage. J'appelle la manifestation de ta bénédiction sur mon mariage. Je déclare, Seigneur, le bonheur dans ma famille. Je décrète cela au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as institué le mariage. Seigneur, je vivrai ce bonheur dans ma famille. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Tous les jours que tu m'accordes, Seigneur, afin que je puisse épanouir mon partenaire. Je déclare que le diable est un menteur. Et aucune action contre ma famille ne réussira. Dieu a établi ce mariage et il subsistera par sa puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, qu'il en soit ainsi en ce jour, afin que ton nom soit célébré par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que toute l'assemblée ensemble, on dise trois fois Amen. 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 Et acclame le Seigneur pour ta propre vie. Merci, Pasteur.